Parcourez les époques et l'histoire de l'art avec le dispositif de réalité augmentée du Louvre-Lens. Cette année, le musée s'est associé à la franchise du jeu vidéo Assassin's Creed pour vous proposer une immersion dans la galerie du temps et dans les rues de Lens. L'objectif, percer le secret du trésor des Templiers. Muni de votre téléphone portable et de l'application, vous pourrez partir à l'aventure et, au passage, redécouvrir les œuvres d'art du musée. On a rencontré Mathieu Raoult, responsable communication et marketing du Louvre-Lens, pour nous en dire un peu plus sur ce dispositif.
Le dispositif, c'est simple, c'est un jeu en réalité augmentée basé sur la franchise Assassin's Creed d'Ubisoft. C'est une idée qui est venue d'un studio à Lille qui s'appelle Augmenteo, qui avait mis ce même type de jeu en place dans d'autres musées et ils sont venus nous le proposer. Dans le cadre des 10 ans, on voulait justement lancer un jeu comme ça, donc en réalité augmentée, donc on est bien via le téléphone, hein, pour célébrer la galerie du temps et aussi le territoire. Donc de ce fait-là, on s'est mis en partenariat avec l'Office de tourisme, Lens-Liévin, pour que on puisse avoir ce parcours qui soit à la fois indoor-outdoor, donc c'est-à-dire un parcours dans la galerie du temps, à travers une sélection d'œuvres de la Galerie du Temps, et puis un parcours dans les rues de Lens pour valoriser aussi le patrimoine architectural de la ville de Lens. Ce concept nous a aussi paru pertinent parce que c'était une autre manière de faire de la médiation autour des œuvres. Ça nous a permis d'aller chercher déjà un public, d'aller à la rencontre d'un public qui parfois ne vient pas au musée. Donc il y avait ce côté, je dirais, attrayant par la franchise Assassin's Creed et par un jeu très ludique, basé sur des énigmes avec des œuvres et qui amène ensuite à un cartel développé et qui explique quelle est l'œuvre. Et donc, en gros, c'était utiliser un moyen numérique, ludique et innovant pour faire découvrir la galerie du temps sous un nouvel angle.
Alors, tu dis ludique, on représente un personnage, on vit un personnage, il y a des missions à accomplir, c'est ça ?
En fait, on est dans la peau d'un enquêteur qui doit trouver le trésor des Templiers. Mais pour trouver le trésor des Templiers, il doit résoudre une série d'énigmes basées sur des œuvres de la galerie du temps. Et pour arriver justement à ce fameux trésor, après j'en dis pas plus parce qu'il faut pas spoiler. Hein.
Alors pour revenir un peu aux origines du projet, du coup tu as travaillé avec des acteurs du territoire, des studios aussi du territoire, c'est ça ?
Ouais, alors territoire au sens large, hein, puisqu'on est dans la région des Hauts-de-France. En gros, c'est un projet porté par quatre entités. On a Ubisoft naturellement, Augmenteo donc qui est basé à Lille, et l'Office de tourisme Lens-Liévin et nous.
Est-ce que pour toi, le jeu vidéo, c'est une forme d'art ou c'est un outil qui permet de mettre en valeur les œuvres d'art ?
Forme d'art, je ne pourrais pas m'aventurer sur ce type de considération, mais par contre, c'est un vrai médium. Et on le voit avec notamment Assassin's Creed, parce qu'on a donné l'accord, enfin Marie Lavandier a donné l'accord pour ce projet, parce que Assassin's Creed travaille avec des historiens. Assassin's Creed est enseigné dans certaines facultés, notamment en Suède, pour voir le rapprochement entre l'histoire en tant que matière scientifique et le jeu vidéo. Et pour ceux qui ont déjà joué, et j'en fais partie, on voit vraiment la véracité. Alors bien sûr, scénarisée, parce qu'il y a quand même une énigme, enfin je dirais un plot à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette véracité historique qui est importante. En plus, pareil, Ubisoft, via Assassin's Creed, travaille avec l'éducation nationale pour des programmes pour les écoles, pour pouvoir par exemple se balader dans l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, pardon. Et donc c'est cette véracité scientifique qui a été aussi prépondérante dans le choix de ce jeu-là. Si ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas lancé là-dedans forcément.
Alors, il y a un parcours aussi en ville. Est-ce que l'objectif, c'était de créer du lien avec les habitants, avec les Lensois et les Lensoises ?
Définitivement, oui. C'est-à-dire que le Louvre-Lens, c'est un musée qui est ancré dans son territoire. C'est pas un ovni qui est venu se poser là. Nous, on travaille énormément avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, associatifs, économiques, institutionnels, mais aussi avec nos voisins, avec les habitants du territoire, de la communauté d'agglo. Donc on voulait que ce jeu puisse valoriser le patrimoine architectural de Lens et puis montrer que le Louvre-Lens fait partie du territoire et donc il y a un prolongement d'expérience à faire entre le musée et la ville.
Et du coup, un petit peu plus de détails sur pourquoi Assassin's Creed ?
Assassin's Creed parce que, bon déjà, Ubisoft, studio français, franchise internationale est connue, qui a fait l'objet d'un long métrage avec Michael Fassbender, de bandes dessinées, d'ouvrages, etc. On a travaillé avec une asso locale, justement sur les jeux vidéo, donc l'été dernier, et ça avait très très bien fonctionné, donc le jeu vidéo est utilisé sur le territoire. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est tout le travail historique qui est fait autour des scénarios des jeux. Pour ceux qui connaissent la franchise, on se balade dans l'Égypte antique, on se balade en Italie à l'époque de la Renaissance, à l'époque des Vikings, à l'époque de la Révolution française, etc. Et il y a un véritable travail fait avec des historiens, des scientifiques, qui pour nous, ça nous parle, puisque la première mission d'un musée, elle est d'abord scientifique, c'est de conserver des œuvres et de faire avancer l'histoire de l'art. Donc il y avait un lien qui était tout trouvé.
Nous sommes toujours avec Mathieu Raoult, responsable communication et marketing du Louvre-Lens, pour nous parler du dispositif en réalité augmentée Assassin's Creed, le secret des mines. De nombreux musées tentent effectivement de repenser leur médiation, notamment en incluant les nouvelles technologies et le numérique. C'est le cas pour le Louvre-Lens.
Je pense que c'est important qu'un musée vive aussi dans son temps, sans pour autant travestir ses missions premières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du jeu vidéo pour du jeu vidéo. La première mission d'un musée, c'est de créer une rencontre entre un public et des œuvres. Et par là même, par le beau, aussi comprendre dans quel monde on vit, d'où on vient et puis comment comprendre le présent. Après, dans l'histoire des musées, il y a toujours eu des évolutions. Champollion était l'exemple probant où Jean-François Champollion, qui a été donc le premier directeur du département des antiquités égyptiennes, avait repensé toute la muséographie pour présenter l'Égypte antique au Louvre. Donc à chaque fois, un musée doit suivre aussi les pratiques des gens. Un musée, c'est pas un entre-soi, c'est vraiment un lieu pour les gens. Et pour que les gens viennent au musée, comme dit Marie Lavandier, il faut aller à leur rencontre. Donc nous, on fait pas mal de pas de côté pour aller à la rencontre des gens. On fait le Hellfest, par exemple. Le jeu vidéo en fait partie. Donc là, on a fait un pas de côté en allant sur un territoire qui n'est pas notre territoire de base, puisque c'est le jeu vidéo. Ceci étant, on donne cette possibilité-là aux visiteurs pour qu'eux, après, puissent venir nous voir et découvrir la Galerie du Temps. C'est aussi un moyen pour les plus jeunes de découvrir des œuvres. Moi, mon fils de 6 ans a fait le jeu. Il connaissait la Galerie du Temps par cœur, parce qu'à chaque fois il vient, etc. Quoi qu'il en soit, il a redécouvert certaines œuvres grâce au jeu, parce qu'il y avait ce côté ludique. Il a fait d'abord la petite énigme, et puis après on lui a lu le cartel, et puis là il s'est dit « Ah tiens, ça je ne savais pas », etc. Donc il y a toujours des moyens pour aller à la rencontre d'un public. Et ces moyens, ils doivent être inscrits dans les temps dans lesquels on vit, sans pour autant travestir les missions premières d'un musée. On va effectivement à la rencontre d'un public, donc certains vont découvrir les œuvres, vont découvrir la Galerie du Temps. D'autres la connaissent déjà, mais vont voir l'œuvre sous un autre angle, grâce justement aux énigmes, avec des petits détails qu'ils n'avaient peut-être pas vus au début. Donc c'est un moyen de recréer une rencontre entre le public et les œuvres.
Deux dernières questions du coup sur le numérique et les écrans. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'utiliser les écrans et le numérique, ou est-ce que c'est pas un peu contraire aux bonnes résolutions de l'année de s'éloigner un petit peu des écrans ?
Tout est question de proportion. Effectivement, on est beaucoup sur les écrans, et moi le premier, notamment de par mon métier. Mais quoi qu'il en soit, les écrans sont là. Le numérique est là. Donc le tout, c'est de trouver le bon dosage. on voit au musée, il n'y a pas énormément de dispositifs numériques. On fait ça plus par projet, excepté effectivement notre web application qui fait office d'audio guide. Mais on a des projets de temps à autre liés à des expositions. Au Louvre-Lens, on veut d'abord créer une rencontre entre l'œuvre IRL, hein, si on prend les langages numériques justement, et le visiteur et la visiteuse. Parfois, il faut un médium entre les deux, à l'instar du jeu. Mais nous, notre mission première, c'est d'abord que les gens regardent les œuvres, ressentent quelque chose. Et ça crée une émotion, que ça crée une compréhension, qu'il y a une forme d'élévation des gens par le beau. Et donc, le numérique est un moyen, et parfois un moyen nécessaire. Exemple, nous, notre audio guide, on a travaillé là avec une association pour intégrer dans l'audio guide des commentaires en langage des signes. C'est très rare. Parce que, en fait, les personnes malentendantes ou sourdes ne peuvent pas utiliser un audio guide. Donc, c'est beaucoup de lecture, mais parfois, le langage des signes facilite la compréhension de certaines œuvres. On a mis en place un projet, là, qui va débuter avec Paysage, justement visant à faciliter la rencontre avec l'œuvre via le langage des signes. Et là, c'est un procédé numérique, en fait, puisque c'est une web app. Donc, le numérique, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est un moyen, c'est pas une fin. L'objectif, c'est soit de faciliter la rencontre, soit d'aller à la rencontre d'un visiteur pour qu'il vienne sur le nôtre, ou de faciliter la compréhension d'une œuvre. On a fait ça aussi avec un procédé de réalité virtuelle pendant Champollion, où on pouvait revivre justement le moment où Champollion est rentré dans le temple d'Abou Simbel. Et c'était un prolongement de l'exposition. Mais clairement, si on faisait l'AVR sans avoir visité l'exposition, oui, expérience sympa. Certes, mais en fait, on n'allait pas au bout de la compréhension. Isolé, ça ne fonctionnait pas. C'était inscrit dans l'exposition. Donc, il fallait faire l'exposition pour comprendre ce qu'avait ressenti Champollion quand il a visité le temple d'Abou Simbel pour la première fois, et pour la seule fois d'ailleurs, où il a pu justement confronter sa théorie sur les hiéroglyphes avec un temple et se dire « c'est bon, en fait, j'ai bien raison sur mon déchiffrement des hiéroglyphes ». Donc voilà, le numérique, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen qui facilite de temps à autre, mais surtout, ça ne remplacera jamais, au grand jamais, une rencontre entre une œuvre et un visiteur ou une visiteuse.
Est-ce que vous avez pu rencontrer des personnes un peu réfractaires aux écrans qui finalement vivaient une bonne expérience, ou au contraire, vous avez eu des retours comme ça de personnes qui n'étaient pas hyper satisfaites de vivre l'expérience via un écran ?
J'ai pas eu de retour de cet acabit parce qu'on pousse personne. C'est-à-dire que les gens choisissent eux-mêmes de faire l'expérience ou pas, d'autant qu'elle est payante en plus. Bon, la galerie du temps est gratuite, mais on n'oblige personne. Donc, c'est vraiment au choix du visiteur ou de la visiteuse d'opter pour ce jeu-là. Nous, on a, sur les autres dispositifs numériques qu'on a pu mettre en place, on n'a jamais eu d'avis négatif. Bien au contraire, je parlais de la réalité virtuelle de Champollion, on a eu des échos très positifs. Et justement, qui marquait le fait que c'était un prolongement de l'exposition. Donc au-delà de l'expérience elle-même qui était cool parce qu'on avait le casque et qu'on était totalement immergé dans un univers, en plus il y avait un petit chat, c'était trop mignon, etc. Mais surtout, les gens ont vu ça comme un prolongement et pas comme quelque chose qui venait travestir. Et c'est là que c'est très important le dosage du numérique, et je reviens à la question précédente, c'est que ce dosage est vraiment très important parce que il est là pour agrémenter, mais surtout pas travestir.
C'était Mathieu Raoult, responsable communication et marketing du musée du Louvre-Lens, à propos du dispositif en réalité augmentée Assassin's Creed Le Secret des Mines. Si vous souhaitez tester l'expérience, vous pouvez télécharger l'application Louvre-Lens Le Secret des Mines, disponible sur iOS et Android. Vous pouvez aussi vous rendre directement au musée pour plus d'informations. L'expérience est à vivre encore toute l'année 2023 au musée du Louvre-Lens.